Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge.
Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un des auteurs dramatiques les plus importants du théâtre français et sans doute le plus important du XVIIIe siècle, je veux dire Beaumarchais. Alors, déjà en soi, la vie de Beaumarchais ressemble à un roman que même Alexandre Dumas n'aurait pu imaginer un demi-siècle plus tard. Il s'appelait Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais et il a eu une vie qui à elle seule remplirait 4 ou 5 autres vies. Son père était horloger, il a été horloger un certain temps, il s'est marié, il a été veuf. Il a été professeur de harpe et, excusez-moi du peu, professeur de harpe des filles, des 4 filles de Louis XV, ce qui quand même était une avancée sociale certaine. Et puis, il s'est remarié avec une veuve mais qui avait un avantage. Elle était riche et elle est morte assez vite. Alors, Beaumarchais, lui, ben, il a pratiqué l'espionnage. Il a pratiqué de tas de choses. Il a échappé de peu à l'échafaud au moment de la Révolution. Il est mort en 1795. De mort normale, naturelle pour cette époque. Il a été trafiquant d'armes. Il a surtout lutté pour une chose qui ne venait à l'esprit de personne à l'époque. Il a lutté pour qu'on reconnaisse les droits d'auteur. Jusqu'à présent, quelqu'un qui écrivait une pièce de théâtre était bien content de la vendre à une troupe et la troupe en disposait à son gré. À partir de Beaumarchais, l'auteur a continué à percevoir quelque chose sur les représentations de sa pièce. En clair, il en restait le propriétaire. Mais venons-en à ce qui aujourd'hui sans doute nous intéresse davantage, la carrière de dramaturge de Beaumarchais. C'est le seul auteur de théâtre à ma connaissance, dont les pièces ont donné naissance à 2 chefs-d'œuvre de l'opéra, puisque Le Barbier de Séville a été transformé en opéra par Rossini et Le Mariage de Figaro, 2 ans après sa création, a été mis en musique par Mozart sous le titre Les Noces de Figaro. Et ces 2 chefs-d'œuvre de la musique d'opéra doivent beaucoup à Beaumarchais, à son invention complètement débridée. Je voudrais vous parler aujourd'hui un peu plus de ce qu'on appelait, de la deuxième pièce, de ce qu'on appelait la trilogie de Beaumarchais. La première pièce est Le Barbier de Séville en 1775 et en 1783, en reprenant à peu près les mêmes personnages, il écrit Le Mariage de Figaro. Oh, on peut citer que, après la Révolution, il a écrit une suite à ces 2 pièces, La mère coupable, L'autre Tartuffe ou La mère coupable. Bon, disons que cette 3e pièce n'apporte rien au brio et au génie de Beaumarchais. Mais je voudrais aujourd'hui parler plus particulièrement du Mariage de Figaro. Alors, la pièce est écrite en 1783, en privé, dans les cercles aristocratiques de la capitale. Elle a été créée à la Comédie française en 1784, elle n'a pas eu un succès énorme, et pourtant, beaucoup d'historiens de la littérature disent, ou d'historiens tout court d'ailleurs, disent que Le mariage de Figaro contient en germe tous les prémices de la Révolution française. D'ailleurs, le roi de France, Louis XVI, l'a trouvé condamnable. Son épouse n'était pas de son avis, Marie-Antoinette avait assisté plusieurs fois à les représentations du mariage de Figaro et s'était beaucoup amusée. Alors, faut-il voir dans cette pièce une annonce de la Révolution française? Je vous laisse le soin d'en juger. Alors, sous-titre de la pièce, Le mariage de Figaro ou la folle journée. Effectivement, c'est une folle journée, parce que l'intrigue rebondit sans cesse. Elle se répercute. Il y a des personnages qui rentrent, qui sortent, qui se cachent dans un fauteuil derrière, un fauteuil, etc., etc. Et c'est très difficile de le résumer. En gros, Figaro, devenu l'homme de confiance du comte Almaviva, dont il a permis le mariage dans le barbier de Séville, va épouser la camériste de la comtesse, l'ancienne Rosine, donc la camériste de la comtesse, Suzanne. Mais le comte Almaviva, même s'il est toujours attaché à la comtesse, trouve que le mariage, finalement, est un peu trop répétitif et il aimerait bien profiter des absences de Figaro, une fois marié, pour rentrer dans le lit de Suzanne. Suzanne, elle, n'est pas du tout d'accord, mais Almaviva est le seigneur. Et à côté de ça, il y a d'autres personnages. Il y a un petit page qui s'appelle Chérubin. Alors, Chérubin, c'est un personnage fantastique. Il est assez grand pour s'intéresser aux dames. Il est un peu trop jeune pour vraiment devenir un amant plausible, mais il est attiré par les femmes. Il est attiré avec toute sa naïveté, son enthousiasme. Et il est amoureux fou de la comtesse. Mais il aime la comtesse un peu comme une image lointaine, inaccessible. Il n'osera jamais lui dire qu'il l'aime. Il le dit à Suzanne, et Suzanne se moque de lui, mais Chérubin, c'est comme ça. Par contre, ça n'empêche pas, en petit garnement, de faire la cour à sa cousine et, de temps en temps, de faire la cour aussi à Suzanne. Et puis, autour de ces personnages pivots, on voit réapparaître trois personnages du Barbier de Séville. Marceline, qui était la gouvernante de Rosine dans le barbier, le docteur Bartolo, qui était le tuteur de Rosine, et Basile, le comploteur, l'homme à tout faire, le personnage vraiment pas du tout recommandable. Alors, évidemment, dans tout ce méli-mélo, il y a une trame qui se poursuit, qui est menée de main de maître. Et alors, après un début où on voit Figaro en train de prendre les mesures de leur future chambre à Suzanne et à lui. Alors la chambre, pour préciser quand même, se trouve entre celle de la comtesse, entre les appartements de la comtesse, et les appartements du comte. Alors Figaro prend les mesures de la chambre avant le mariage, et Suzanne lui explique quand même que c'est un endroit qui n'est pas très, très sûr. Quand Figaro est appelé à envoyer en mission par le comte, celui-ci n'a pas grand pas à faire pour venir jusque dans le lit de Suzanne. Alors Figaro, évidemment, il se dit, bon, puisque c'est comme ça, puisque le comte Almaviva veut nous tromper, on va se montrer plus malin que lui. Alors, le comte va tout faire pour que le mariage ne se fasse pas, ou au moins qu'il se fasse, disons, pour l'avantage du comte. Et il va essayer de l'empêcher, ce mariage. De l'empêcher parce que Marceline, qui était la gouvernante de Rosine, vient réclamer Figaro en mariage. Elle a jadis prêté de l'argent à Figaro et il lui a signé un billet en disant qu'il lui rembourserait ce qu'elle lui avait prêté ou il l'épouserait. Or, Figaro prétend que c'est bien, il est bien écrit dans le contrat, je rembourserai la somme ou j'épouserai Marceline. Et Marceline prétend que ce « ou » n'existe pas, qu'il y a marqué « et j'épouserai Marceline ». Alors, le comte essaie de marier Figaro à Marceline, ça le débarrasserait par rapport à Suzanne. Mais, en parlant, devant le juge Bridoison, qui bégait en n'en plus finir, Figaro évoque ses origines, dont on ne sait rien, finalement. Il évoque la façon dont il a été trouvé. Et là, miracle. Marceline découvre que ce Figaro qu'elle voulait épouser est en fait son fils qu'elle a été obligée d'abandonner. Alors, c'est un peu curieux d'ailleurs, parce que, évidemment, à la fin du XVIIIe siècle, Freud n'avait pas encore trouvé sa théorie du complexe d'Oedipe inversée. Mais montrer une mère inconsciemment amoureuse de son fils, au point de vouloir l'épouser même sans savoir qu'il était son fils, c'est un peu curieux, non ? Alors, beaucoup moins drôle, Figaro découvre par la même occasion que son père est le docteur Bartolo. Ça, il apprécie moins. Et puis, Suzanne arrive sur ses entrefaites et en voyant Marceline en train d'embrasser son fils retrouvé, elle pique une crise de jalousie terrible. Marceline dit en riant « Je suis la mère de Figaro ». Et tout finit par des embrassades, ce qui n'arrange pas le comte, parce que lui, pendant ce temps, il se trouve toujours sans mariage avec Figaro sur les bras. Alors, il va essayer plusieurs choses, il va essayer d'éloigner Figaro, il va essayer, mais Figaro est toujours là. Alors, je ne résiste pas au plaisir, pour tous ceux qui connaissent un peu l'anglais, le comte va envoyer Figaro en Angleterre, sous un prétexte quelconque, mais il y a un problème. Figaro ne parle pas anglais. Aucun problème, répond Figaro, en anglais. Je connais Goddam. Eh bien, diable, c'est une belle langue que l'anglais, il en faut peu pour aller loin avec Goddam en Angleterre. On ne manque de rien nulle part. Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras, entrer dans une taverne, faites seulement ce geste au garçon, Goddam, il vous apporte un pied de bœuf salé sans pain. C'est admirable. Aimez-vous à boire un coup d'excellent Bourgogne ou de clairé, rien que celui-ci, Goddam, on vous sert un pot de bière en bel étain, la mousse au bord. Quelle satisfaction! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trot en menu, les yeux baissés, coudes en arrière et tortillant un peu des hanches, mettez mignardement tous les doigts, mais sur la bouche, ah, goddame! Elle vous sangle un soufflet de crocheteur, preuve qu'elle entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant, mais les biens aisés de voir que goddame est le fond de la langue, et si Monseigneur n'a pas d'autre motif de me laisser en Espagne, je vous propose un extrait des Noces de Figaro de Mozart, l'air de la comtesse. Alors, le comte, en fait, va se trouver berné parce que il a contre lui Figaro, il a contre lui Suzanne, il a contre lui la comtesse. Il ne fait pas le poids. Mais Figaro, par moment, il doute parce que Suzanne et la comtesse ont mis au point un stratagème dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui est assez machiavélique. Mais Figaro doute. Et voici la tirade sans doute la plus célèbre de la pièce. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister tellement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez ajouter ? La nuit est noire en diable et me voilà faisant le saut métier de Marie, quoi, que je ne sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leur mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie. Et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister les bêtes malades et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussais-je mis une corde au cou, je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fonder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde et toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince Mahométan, dont pas un se croit de ses lires, et qui nous meurtrise l'homoplate en nous disant « chien de chrétien ». Ne pouvant avoir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusées, mes termes étaient échus. Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses, et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours si légers sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a crevé son orgueil. Je lui dirai que les sottises exprimées n'ont pas d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire m'en met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoi qu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume, demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse, et que pourvu que je ne parle dans mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des choses en place, ni des corps à crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je vais tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et comment aller sur les brisés de connaître, je le nomme journal inutile. Pouh ! Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'a laissé saisir, on pensait à moi pour une place. Mais par malheur, j'y étais propre, il fallait un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler, je me fais banquier de Pharaon. Alors bonne chance de soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu me remonter, je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir, mais comme chacun payait autour de moi, en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien que je périsse encore. Pour les coups, je quittais le monde. 20 brasses d'eau allaient m'en séparer lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier étage. Je reprends ma trousse, mon cure anglais, laissant la fumée aux sauts qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin. Je vais rasant de ville en ville et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie. Et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme. Au moment d'épouser une mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est nous. C'est toi, non, ce n'est pas nous. Oh, mais qui donc? Oh. Bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres, qui les a fixés sur ma tête. Forcé de parcourir la route, je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore, je dis ma gaieté sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même qui est ce moi dont je m'occupe. C'est là la plus belle, la plus célèbre tirade de la pièce. Et alors on arrive vers le dénouement où le comte, croyant avoir affaire à Suzanne, lui explique pourquoi il s'est détaché de la comtesse. Ce qu'il ignore, c'est que celle à qui il s'adresse en fait est la comtesse qui a revêti les habits de Suzanne. Alors, le comte à la comtesse, ou plutôt celle qu'il croit être Suzanne, qui lui demande pourquoi il a changé et pourquoi il a choisi elle, Suzanne. Le comte, je ne sais. Moins d'uniformité, peut-être, plus de piquant dans les manières, je ne sais quoi, qui fait le charme, quelquefois un refus, que sais-je. Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant, cela dit, une fois, elles nous aiment quand elles nous aiment, et sont si complaisantes, si constamment obligeantes, et toujours, et sans relâche, qu'on est tout surpris un beau matin, un beau soir, de trouver la satiété où l'on recherchait le bonheur. Bien sûr, pour Suzanne et Figaro, tout finira par s'arranger. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose de nous quitter en compagnie de Mozart et de l'air de chérubin dans les Noces de Figaro. Voi che sapete, vous qui savez. Au revoir.
Senza voler, al petto e tremo.